J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre
nous
de choses.
Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais...
Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard.
Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle un millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat.
Vous avez pu reconnaître un extrait du film Bienvenue à Gattaca, film de 1998 réalisé par Andrew Niccol. Nous sommes avec François Lotte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et exercez à l'université de Rennes. Vous avez fait avec Gérard de Boisboissel, ingénieur de recherche militaire à Saint-Cyr, une conférence la semaine dernière au Café des Champs Libres sur le thème de l'homme augmenté, fantasme ou réalité. On vient d'entendre un extrait de Bienvenue à Gattaca. Qu'est-ce que cet extrait vous évoque ?
Eh bien, cet extrait évoque un eugénisme, c'est-à-dire une amélioration, ici une amélioration individuelle concernant un couple, j'imagine. Et il s'agit donc de modifier le rapport que l'on a à la reproduction humaine, qui est donc un rapport ici de programmation. Jusque-là, dans les techniques biologiques naturelles, la programmation n'est pas vraiment centrale. Et donc, il y a beaucoup de hasard. Dans la biologie, dans la diversité, il y a beaucoup de choses qui vous arrivent par hasard. Et donc, on accepte ce qui nous arrive. On peut appeler ça que la nature nous est donnée, par exemple. En revanche, lorsque l'on veut commencer à contrôler, et c'est souvent le travail de la science, il s'agit d'abolir et de repousser le hasard. Alors, ça dépend jusqu'où on veut contrôler, mais là, on change vraiment le rapport entre les parents et les enfants, puisque déjà, pour un jeune, s'émanciper, c'est pas facile. Il y a les parents qui font pression à droite et gauche, mais vous imaginez qu'une programmation, les parents seraient d'une exigence un peu folle. Et donc, ici, il y a vraiment comme d'emblée, on arrive au monde, sujet d'une programmation avec un objectif, là, on l'entend bien dans le film, et donc, il s'agit de réduire vraiment le hasard. Ça, c'est vraiment le projet... d'un eugénisme qui aujourd'hui n'est pas un eugénisme genre nazi qui fait vraiment peur, il s'agit ici d'un eugénisme libéral qu'on a tendance à accepter. Et cette acceptation pose vraiment des questions.
Derrière cette idée d'humain augmenté, on peut très vite penser à l'esprit de l'idée de transhumanisme, de transformation de l'être humain, d'augmentation. Mais qu'est-ce que c'est que le transhumanisme ?
Le transhumanisme, c'est un petit peu l'intermédiaire entre notre humanité et la future humanité qui serait la post-humanité, quoi. Mais dans le transhumanisme, il s'agit donc d'en terminer avec la fatigue, d'en terminer avec nos insuffisances biologiques, en terminer avec se casser le col du fémur quand on est vieux, en terminer avec les problèmes où notre cerveau nous lâche, etc. Et donc, on s'améliore et on dure, et on dure, et on dure longtemps. Et même à terme, on peut nous promettre une certaine immortalité. Mais il s'agit évidemment d'une amélioration et d'une immortalité vraiment ici et maintenant. Pas l'immortalité telle qu'on le concevait autrefois, qui est le passage après la mort, etc.
Et qu'est-ce que cette idée-là dit de notre rapport à l'humanité, justement ? Est-ce que pour être humain, on devrait se conformer aux limites biologiques de notre corps, aux limites biologiques imposées à l'humain ? Ou est-ce que c'est autre chose, être humain ?
C'est toute la question anthropologique de la définition de l'être humain. Alors vous avez des... En fait, cette question-là, elle nous suit, quoi. Ça commence par exemple à la Renaissance avec Pic de la Mirandole qui dit que Dieu n'a pas achevé la création et que c'est à l'homme de la terminer. Et alors que les autres espèces sont enfermées dans des lois très strictes, biologiques, nous serions, grâce au libre arbitre, vous savez, Dieu a donné le libre arbitre aux hommes, et grâce à ce libre arbitre, eh bien, on a la possibilité de finir le travail commencé, si on peut dire, car on a donc cette possibilité de construire des nouveaux chemins causaux du simple fait que nous avons le libre arbitre, on est plus fort que la nature, quoi. Et donc ça, c'est vraiment les premières pièces, finalement, du transhumanisme. Et puis, au fil du temps, aux Lumières, même au XIXe siècle et au XXe siècle, on a vraiment continué cette idée que l'homme était modifiable. Et donc, vous avez deux façons de se modifier. Soit qu'on se modifie en repoussant les frontières, Ça, c'est vraiment le chemin, je dirais, normal. Ou alors vous modifiez en mettant à bas les frontières. Et le transhumanisme, c'est pas repousser les frontières, c'est mettre à bas les frontières. Et donc là, il y a des projets complètement dingues, si on peut dire.
Justement, en parlant de projets complètement dingues et de gens qui veulent détruire les barrières, les plus à même actuellement de procéder à ces évolutions sont des gens comme Ray Kurzweil, par exemple, ingénieur à Google, ou encore quelqu'un comme Elon Musk, qui a énormément d'entreprises, mais notamment Neuralink, dont vous pourrez nous parler peut-être. À quel point ce genre de personne incarne-t-elle une forme d'hubris qu'on peut retrouver un peu dans nos mythes ?
De toute façon, l'humanisme, le transhumanisme, c'est vraiment un esprit de domination de la nature, un esprit où l'homme devient une sorte de dieu, bon, avec un D minuscule, hein, c'est pas le grand dieu du monothéisme, hein, c'est le dieu grec, quoi, les dieux grecs, et donc il devient un artisan super puissant, quoi. Et Kurzweil, ou tous ces gens des sociétés, des GAFAM, etc., eh bien, lisent beaucoup de science-fiction, d'abord. Ce ne sont pas tellement des biologistes, mais plutôt des informaticiens. Ça, c'est assez important. Ils ont donc une certaine idée de l'hybridation entre notre biologie et les machines. Bon, ça ne se fait pas tout seul, et tout ce qu'ils racontent sont des prédictions où on a fait effectivement fort usage de la science-fiction, quand même beaucoup. Hein. Mais il n'empêche, dans les prédictions de Kurzweil, il y a vraiment des choses. Il parle en 2030, je crois, de plusieurs hybridations. Le but, c'est vraiment d'en finir avec le corps biologique. Et c'est vrai que le corps biologique est plein d'imperfections, on est fatigué un jour, etc. Mais est-ce que ce corps biologique peut passer à un corps qui ne serait plus un corps, mais qui serait un être hybride. Et donc, je ne sais plus votre question.
C'est à quel point ce genre de personnage incarne une forme d'hubris humaine un peu.
Ah ben oui, il incarne vraiment la forme de l'hubris. Et c'est des gens vraiment décomplexés, c'est-à-dire ils pensent qu'on peut être vraiment l'artisan de l'évolution. Mais c'est en germe quand même, hein. C'est en germe. Alors eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils abattent les frontières, quoi, hein. Et donc ils sont vraiment, ils ont une certaine idée de l'homme. Par exemple, ils pensent que la conscience peut être téléchargeable. Alors ça, c'est vraiment étrange. Même pour un philosophe, moi je suis spécialisé en philosophie de l'esprit, vraiment télécharger l'esprit, c'est assez curieux, parce qu'une fois que vous êtes téléchargé, vous êtes réplicable. Mais si vous êtes réplicable, vous n'êtes plus une personne. Une personne, c'est unique. Et puis de toute façon, se télécharger, c'est avoir une idée de la conscience qui n'est plus une conscience biologique, mais qu'une conscience de calcul, une conscience électronique. Et il est vrai que l'IA nous donne une impression, je parle de l'intelligence artificielle, nous donne une impression que la conscience pourrait être contenue à l'intérieur de calculs. Une machine pourrait agir et calculer la conséquence de son acte, peut-être mieux qu'un être humain, d'accord ? Mais de là à dire que c'est ça et seulement ça la conscience, alors ce genre de débat est vraiment, sur la conscience par exemple, il occupe vraiment tout un terrain philosophique vraiment très chou aujourd'hui dans les discussions entre philosophes, ceux qui pensent que la conscience est effectivement quelque chose qui peut être entièrement physique, une question de neurotransmetteurs, et ceux qui pensent que la conscience ne peut pas être dans une machine au sens, elle n'aurait qu'une conscience simulée, quoi. Mais eux, ils pensent qu'on va aller sur une hyper-intelligence qui va balayer tout ça. Mais ça, c'est vraiment des spéculations.
Vous nous avez parlé de santé juste avant. Mais c'est souhaitable pourtant d'avoir des avancées technologiques qui nous permettraient, par exemple, qui permettraient aux personnes handicapées de remarcher, par exemple. Est-ce que ça, c'est du transhumanisme ou qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors la question de la santé, elle est importante. Vous avez deux concepts de santé. Vous avez la santé qui est le retour à la normale de votre organisme. Vous avez une angine bactérienne, vous prenez un antibactérien et puis votre angine est partie. Et vous retrouvez votre organisme, l'état normal de l'organisme. Et vous avez un second concept de santé qui est un concept de ressources pour quelque chose. Et dans ce deuxième concept de santé, on l'a tous, hein, ce concept de santé s'utilise vraiment en deux. Mais dans une entreprise, par exemple, pourquoi les gens doivent être en bonne santé ? C'est parce qu'ils doivent être des bonnes ressources pour l'entreprise. Et donc ici, bien, votre vie, vous êtes en bonne santé pour faire quelque chose. Et à ce moment-là, vous pouvez développer l'augmentation. Il s'agit de mieux voir, il s'agit de mieux réfléchir, il s'agit d'être plus fort, etc. Donc c'est un concept d'un moyen pour une fin. Et c'est assez étonnant que ce concept de santé-là soit maintenant notre concept de santé. Parce que quand en début d'année, on dit « bonne année, bonne santé », on dit « garde ton organisme tel qu'il est ». Mais peut-être que bientôt, on dira « bonne année, bonne santé » pour à la fin de l'année, je ne sais pas, moi, avoir un bras en plus ou des trucs comme ça, quoi.
Dans ces idées d'augmentation-là, justement, même si l'aspect utile est souvent mis en avant, il y a une chose ou une idée qui en ressort quand même, c'est la peur de la mort. Qu'est-ce que cette quête transhumaine-là nous dit de notre rapport personnel en tant qu'humain à la mort ?
Bon, ce que ça nous dit, il y a un animateur de radio, justement, enfin, qui fait des livres aussi, il s'appelle Beck BD, oui. Frédéric Beck BD. Il a écrit un très mauvais livre sur le transhumanisme, où il fait une quête, un petit peu comme autrefois, une quête de l'immortalité. Et dans ce livre-là, il dit « la mort, c'est vieux jeu, la mort, c'est dépassé, il faut tuer la mort », quoi, des trucs comme ça. Mais en fait, notre rapport à l'immortalité, si on pense à Gilgamesh ou à Ulysse, par exemple, vous savez, Ulysse, il est enfermé dans une île, et puis au bout d'un moment, on lui propose l'immortalité. Et il se dit « c'est quoi cette immortalité ? Moi, je veux l'immortalité, c'est être avec les vivants ». Et c'est mourir avec les vivants. Et notre immortalité, elle va être dans les récits qu'on va me faire. Tandis qu'aujourd'hui, on ne comprend plus du tout ça. On pense à une immortalité qui pourrait avoir lieu ici et maintenant. Et cette immortalité d'ici et maintenant, c'est une immortalité technologique. Effectivement, on pourrait peut-être faire durer les choses. Parce que vous savez, il y en a qui... Par exemple, Laurent Alexandre, qui est un médecin un peu intrépide. Et donc, ce médecin, il dit que il y a des enfants qui sont nés qui vivront 1000 ans. 1000 ans, c'est un peu dément, mais... Et donc, l'immortalité, voyez, on vous propose un truc ici et maintenant. Alors que notre rapport à la mort, normalement, jusque-là, il était sur un pan religieux ou un pan de l'au-delà, enfin un autre pan de la réalité. Mais là, on vous propose une réalité ici et maintenant. Et là, c'est vraiment l'homme-dieu, hein, l'homme avec tous les pouvoirs, quoi.
On a parlé rapport religieux, justement. Alors, est-ce que cette quête d'immortalité-là, elle a toujours existé, ou on pourrait l'expliquer par la disparition progressive du sacré dans nos vies ?
Oui, ça, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les prédictions de Kurzweil s'apparentent vraiment à des prédictions de sacré, quoi. C'est-à-dire que c'est sur un mode, on vous dit « il se passera cela ». C'est un mode du futur. Alors que c'est vraiment pas logique qu'on ait un mode du futur pour ces projets-là. Et donc on est vraiment ici dans quelque chose qui s'approche d'une nouvelle approche religieuse, effectivement, mais une religion qui décoiffe pas tellement, puisqu'on nous propose une immortalité in situ. C'est vraiment... Mais effectivement, il y a un côté religieux, c'est sûr.
Merci beaucoup, François Lotte.
Ben, merci à vous.
On vous rappelle à tous que vous pouvez trouver sur le site des Champs Libres le podcast du Café des Sciences. Je vous le conseille, c'est très intéressant.
Dans la vie, il n'y a pas de problème avec les fatalités.
Et on continue en musique et on reste dans cette thématique de l'immortalité avec une chanson d'Alain Bachung, justement nommée « Immortel ».
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviner que des dieux se cachaient sous des faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières ces pourvoyeuses d'été. Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en revenez, mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait, et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, nous sommes immortels. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.